Bonsoir et bon début de semaine à tous. La situation sécuritaire reste toujours tendue ce lundi 5 février dans la localité de Chacha, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Des tirs à l'arme lourdes se sont fait entendre dans le village Kiabassé, un village environnant la localité de Bweremana, dans la chefferie de Baoundé. Le trafic sur la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu, est coupé à partir du centre de Chacha au nord Kivu depuis samedi 3 février en fin de journée, à la suite des combats entre les rebelles du M23 et les FRDC ainsi que les milices locales. Il n'y a plus de trafic entre Goma, Sake et Minova depuis la prise de Chacha samedi par les rebelles qui auraient érigé une barrière en plein centre de ce village situé à 9 km de la cité de Sake. Pendant ce temps, les États-Unis ont, dans un communiqué publié ce lundi 5 février, demandé à tous les groupes armés non étatiques, y compris le M23, à cesser les hostilités et à déposer les armes. Ils appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à immédiatement retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais. Quelle analyse faire de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu? Nous en parlons ce soir avec Mwindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est élu de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Bob Kiabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir. Vous m'entendez? Je crois qu'on a un petit souci avec la ligne téléphonique. La réalisation va essayer de le rappeler à Goma, au Nord Kivu. Vous nous suivez sous la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, au Nord Kivu, la situation est toujours tendue dans la région de Chacha, territoire de Massissi. La route nationale numéro 2 qui va de Bukavu à Goma reste coupée à partir de Chacha sous occupation des rebelles du M23. Cependant, le centre de Kirote, est de nouveau sous contrôle des FRDC selon des sources locales à Bweremana. Denise Lukeso pour le reportage.
Pas toujours de trafic entre Sake et Minova sur la RN2. La circulation routière reste bloquée sur cette route qui relie les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les M23 qui occupent Chacha et les trois collines stratégiques, Kagano, Ngingwe et Muremure notamment, continuent de larguer des bombes à partir de ces positions surélevées, affirme un acteur de la société civile à Bweremana. Selon la même source, hier dimanche, l'ennemi a tenté en vain de traverser les ponts Renga pour prendre Bweremana. Il aurait été contenu par les combattants Wazalendo. Ces derniers gardent le contrôle de Bweremana. Alors que l'agglomération de Kirote, qui héberge un grand centre hospitalier, elle est passée de nouveau sous contrôle des FRDC dans la soirée d'hier dimanche, selon plusieurs sources. Entre-temps, le mouvement de déplacement des habitants de Bweremana s'est poursuivi ce lundi matin en direction de Minova au sud Kivu. Sur l'axe Mouesso, une panique généralisée gagne la population de Mouesso déjà traumatisée. C'est à la suite des bombardements effectués ce lundi matin en direction de l'ennemi par l'armée, confirme les sources sur place. Goma, Denise Lukeso, Radio Capi.
Merci Denise Lukeso pour ce reportage. Mwindo Nzangi, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, élu du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vive la situation sécuritaire au Nord Kivu reste tendue dans les territoires de Massissi et même Rutshuru. Le gouvernement a échoué sa mission de restaurer la paix dans cette partie du pays.
Alors, je ne répondrai pas à votre question. Je vais seulement profiter de ce moment pour saluer tous ceux qui nous écoutent sur Radio Capi. Et je vais aussi profiter de ce moment pour présenter mes compassions à toute la population du Nord Kivu
des milliers de personnes qui sont en déplacement ce soir à partir de samedi et même à partir de deux semaines à la suite de cette nouvelle vague d'attaques menée par le gouvernement rwandais dans cette partie du pays. Je vais donc aussi profiter de votre micro pour encourager les FARDC qui sont au combat, pour encourager aussi les VDP, les volontaires pour la patrie, que vous appelez les Wazalendo, qui sont des Congolais, des jeunes, des vieux, qui n'acceptent pas de rester inactifs lorsque le pays est attaqué et qu'il faut un travail exceptionnel sur le terrain. Je voudrais vous dire que ça va faire maintenant des ans que notre pays est attaqué par les Rwandais, sous le couvert de cette fameuse rébellion des terroristes du M23. Nous faisons face, depuis la fin des élections, à des vagues d'attaques qui sont menées par des forces spéciales rwandaises sur plusieurs axes. Donc nous sommes sur l'axe des bambous, puisqu'ils essayent de continuer à prendre Bambou Nyanzale vers Kibirizi, vers Kanyabayonga. Nous sommes sur l'axe Mweso, puisqu'ils veulent prendre Mweso Pinga pour aller vers Walikale. Nous sommes sur l'axe Rubaya, qui est un axe stratégique où ils tentent de s'accaparer des mines de Rubaya pour essayer de s'approvisionner. Nous sommes aussi sur l'axe Minova, notamment à Chacha, où ils essaient de couper la route pour essayer de couper la dernière route et empêcher l'approvisionnement de la ville de Goma. Nous sommes aux aguets, même si les fronts ne sont pas très vifs, mais nous sommes aux aguets sur l'axe Kibumba-Goma, où des troupes rwandaises essayent de continuer pour voir s'ils peuvent affaiblir nos positions sur ce côté-là.
Mais pendant ce temps,
nous sommes aux aguets sur l'axe Kinyandoni, nous sommes aux aguets aussi sur l'axe Rwindi. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre, et c'est une guerre qui nous est menée par un État. Il ne faut pas dire que c'est une rébellion, c'est un État qui envoie ses troupes parmi ses troupes d'élite. Et jusque-là, sur le terrain, les FARDC et les volontaires pour la patrie, les Wazalendo, essaient de se défendre. Ils se défendent et ils se défendent très bien. Je peux vous dire par exemple que ça fait deux semaines qu'ils ont tenté de prendre Rubaya, ils n'ont pas réussi. Ça fait deux semaines qu'ils ont tenté de déborder pour prendre Sake, ils n'ont pas réussi. Ça fait deux semaines qu'ils essaient de prendre Katiru, ils n'ont pas réussi. C'est vrai qu'il y a aussi des endroits qui sont en train de tomber. Donc je voudrais dire que il ne faut pas seulement considérer que là on est à l'hécatombe par la prise de Sacha qui ouvre effectivement une brèche vers le sud Kivu, mais nous sommes en guerre et c'est une guerre très intense. C'est une guerre où il y a des pertes en hommes du côté du M23 comme du côté des VDP et du côté des FARDC. Et la population nous demande de faire plus. Et bien évidemment, moi comme notable de la province du Nord Kivu, élu de la ville de Goma et réélu encore une fois, je ne peux pas ne pas souligner qu'à certains points de vue, il y a des faiblesses qui nous empêchent de pouvoir contenir cette progression des rebelles. Il y a des faiblesses internes au sein des forces armées ou même de la coordination des opérations sur le terrain, et le chef de l'État est en œuvre pour essayer de corriger toutes ces faiblesses et nous permettre de contenir cette vague d'attaque et pourquoi pas de chasser les ennemis.
Vous l'avez souligné vous-même, ça fait deux ans que la RDC est en guerre. Le chef de l'État a pris des mesures. Presque tous les membres du gouvernement répètent la même chose. On a pris des mesures pour contenir cette guerre, mais ça fait deux ans qu'elle dure.
Bien évidemment.
Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour mettre fin à cette guerre?
Cette guerre-là, ce n'est pas des ans qu'elle dure. Elle dure depuis beaucoup
oui,
de temps.
Mais là,
elle dure depuis
la résurgence
de temps,
des troupes là, du M23.
Et nous constatons tous ensemble que l'ensemble des mesures qui ont été prises n'ont pas encore réussi à mettre à place une armée capable de pouvoir défendre correctement notre pays. Mais aujourd'hui, vous devez remarquer une nette différence. Je suis sûr que si c'était hier, aujourd'hui, le M23 ne serait pas à ce niveau-là. Nous faisons face à une guerre à très haute intensité. Je vais vous le dire, puisque vous n'en parlez pas assez, il y a des morts du côté rwandais, comme il y en a de notre côté, on l'accepte. Les moyens que nous utilisons aujourd'hui, nous ne les avons jamais utilisés. Nous utilisons des drones, vous avez suivi, que nous faisons des bombardements ciblés pour tuer des commandants, tuer, essayer de déstabiliser leurs bases. Mais nous avons affaire à un État, et on le constate aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face, que jusque-là, on n'a pas encore réussi à contenir cette agression de l'armée, mais l'armée rwandaise, appuyée aussi par d'autres États, il n'y a pas que l'armée rwandaise, puisque sur le terrain, il y a des morts et des blessés, même des mercenaires blancs du côté des M23, ce qui nous fait effectivement dire que nous faisons face à une guerre de très haute intensité pour laquelle, en tant que nation, nous devons être soudés pour aider notre armée à pouvoir les résoudre.
La RDC appelle à certains États ou même à certaines organisations pour l'aider à mettre fin à cette aventure de M23. Aujourd'hui, la SADC est entrée en danse. Quelle est exactement sa mission sur le terrain?
Moi, je ne suis pas le ministre de la Défense ni le ministre de la Coopération pour parler des questions liées à cela. Je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que c'est les Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent être mis en capacité pour résoudre ce problème-là. Et l'engagement que je vois aujourd'hui du côté des VDP, donc de la population qui se mobilise pour défendre sa patrie, c'est ce matin, Kiroch est repassé sous les contrôles des VDP et des FARDC. Et même chasse, mais il continue à occuper toujours les collines supplémentaires. Donc ils peuvent atteindre la route en état sur ces collines-là, mais au moins, à moins de quelques heures, ils ont pu reprendre le contrôle, puisque aujourd'hui.
Ça veut dire que vous ne faites pas confiance.
Il y a un engagement tel
à
que.
À toutes ces organisations qui viennent pour aider les FARDC.
Je donne mon point de vue personnel, je le donne ici, je le donne au Conseil des ministres et partout. Moi, je crois que nous devons investir à mettre à capacité les Congolais pour défendre leur propre pays. Je ne crois pas à une seconde que la solution viendra d'ailleurs. C'est ce que le chef de l'État essaie de faire. Mais dans l'entretemps, puisque nous avons certaines difficultés, il faudra avoir quelqu'un pour être là en appui.
Dadi Salé, docteur spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique, votre analyse sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, la violence dans l'est de la RDC qui s'intensifie de plus en plus.
Oui, toutes nos compassions d'abord effectivement à la population congolaise, parce que c'est une guerre congolaise, et puis plus particulièrement effectivement aux enfants du Nord Kivu, où il y a plusieurs déplacés, et là, dans plus ou moins 20 ans, nous avons plus ou moins 10 millions de morts. Et on a plus ou moins 10 millions de déplacés internes. Là, juste pour ces deux jours, on a plus ou moins 8 000 déplacés à cause de la guerre vers Chacha, Kiroche, etc. Donc, c'est pénible, et nous le savons tous. Maintenant, mon impression, je n'aimerais pas répéter ce que mon éminent co-débatteur, notre ministre qu'on respecte beaucoup, Nzangi, vient de dire, il a donné un peu une cartographie, donc je vais sauter un peu cette étape qui est du reste vrai. Donc je saute cette étape-là et aller un peu dans le vif du sujet. Il a si bien dit que la situation est grave et gravissime. C'est une vraie guerre, donc nous ne sommes pas en train de faire un jeu. Donc je félicite les Wazalendu, qui sont des enfants congolais qui se battent corps et âme, et je félicite le FARDC. Le FARDC avec tous les services. Mais que là, il y a un point très important. Nous devons reconnaître que nous ne prenons pas des mesures adéquates face à la situation qui est grave et gravissime. Je pense que l'excellent ministre l'a reconnu. Mais bon, écoutez, il y a eu des erreurs, comme le président de la République l'a si bien dit. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si ces erreurs-là sont en train d'être corrigées, parce que jusque-là, l'ennemi prend de l'avant. Et quand nous défendons un peu, ben, nous applaudissons. Ce qui ne devait pas être du tout le cas. Nous le savons très bien, madame, et toute la population, que nous avons affaire à un complot international, on sent la République démocratique du Congo commencer à monter d'une façon ou d'une autre, à le dire clairement, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et là, il ne s'agit pas de spéculation, s'il vous plaît. Je comprends que les officiels peuvent ne pas avoir les langages que moi j'ai, mais quand même, il faut qu'on arrête avec la politique d'Autriche et une diplomatie naïve. Nous avons, par exemple, documenté des troupes rwandaises depuis très longtemps, ce n'est pas il y a 2 ans. Depuis plus de 20 ans que les troupes rwandaises, il n'a jamais existé ni de CNDP, ni de M23, etc. Nous avons le Rwanda, l'Ouganda et ces forces néocolonialistes qui nous attaquent. Mais le gouvernement jusque-là est incapable de dire les choses aussi claires que ce que nous sommes en train de dire là. Ce qui fait que, par exemple, le gouvernement n'arrive pas à condamner l'Ouganda. Ça va, où nous le savons tous. Et les preuves de la NER sont là, des Nations Unies et de nous tous, la société civile. Que les troupes de l'Ouganda militaires sont entrées, sont toujours là, de toutes les façons, avec l'M23. Mais au même moment, nous avons une coopération vers l'Ituri et Beni avec l'Ouganda, ça va, armée avec les BDS par DC, et nous sommes en train de nous battre contre l'Ouganda qui soutient totalement le Rwanda dans cette... Ils sont totalement avec le Rwanda. Donc, je pense que la vraie difficulté, ce ne sont pas vraiment nos militaires. C'est tout que, comme l'a dit le gouverneur militaire Chirimoine, non, ils sont aux ordres. Le vrai problème, c'est la mauvaise classe politique que nous avons. Il faut le dire, nos militaires, pauvres militaires, ils n'obéissent qu'aux ordres. Et c'est vrai, ils obéissent aux ordres. Il y a des ça ne va pas, on sait, mixage, etc. Mais nous avons une mauvaise classe politique. En grande partie, on a quand même des bons politiciens, mais pour moi, plus de 90%. Une mauvaise classe politique qui n'arrive pas à prendre des décisions adéquates.
Parce que c'est mais qu'est-ce que vous entendez par décision adéquate, Dadi Salé?
Prenons des exemples clairs, noir sur blanc. Comme ça, on reste dans la constitution et légaliste. Le ministre Nzangi, qui est un vaillant, que je connais très bien, je le soutiens, ça va, là c'est bien dit. Nous sommes en guerre. Mais pourquoi est-ce qu'on a jamais déclenché l'article 86 qui vient juste après l'article 85 par rapport à l'état de siège? L'article 86, c'est-à-dire que nous faisons la guerre. Et peut-être que certaines personnes ne comprennent pas la pertinence de l'article 86. Dès que nous commençons à faire la guerre, mais nous faisons avec beaucoup d'opérations, un peu comme si les gens sont en Kinshasa en train de chercher des postes, mais pas qui va devenir ministre, qui va devenir premier ministre, qui va avoir des postes, qui va être gouverneur. Donc au fond, une classe politique qui ne s'occupe pas de l'essentiel. En grande partie, pourquoi est-ce que l'article 86 n'est pas déclenché? Mais parlons maintenant de l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution est clair, c'est-à-dire que nous devons nous battre avec toutes les armes, tous les moyens. La population doit se mobiliser, comme en Ukraine, comme en Palestine, en Israël, un peu partout là où les gens se prennent au sérieux. Mais nous avons une classe politique incapable de faire une vraie sensibilisation, parce que vous savez, pour gagner la guerre, c'est d'abord, il s'agit de morale. Il s'agit de la mobilisation populaire pour soutenir effectivement les militaires. On félicite les Ouaganiens, comme on l'a dit, mais ce n'est pas suffisant. Parce que je suis à Kinshasa. Vous savez très bien qu'à Kinshasa, ben, les gens ne sont pas assez mobilisés pour comprendre que la guerre est en République démocratique du Congo.
Il y a des mobilisations qui se font à Kinshasa. Ne vous inquiétez pas, Nadi Salé, oui. Il y a eu une manifestation samedi. Il y a des militants qui ont été arrêtés hein, parce qu'ils ont...
Je vais y arriver.
Allez-y.
Nous sommes en train de les encourager, mais comme le ministre l'a si bien dit, c'est au prorata et à la mesure de la difficulté, madame. Ce n'est pas parce qu'on a 10% et 20% qu'on va parler de mobilisation. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'on cesse de parler de l'opposition, de la majorité et des postes, que nous tous nous puissions nous concentrer par rapport à l'article 63 de la Constitution. Ça serait ça. Et que tout le monde qui s'est fait élire, à l'instar de notre aîné politique Nzangi, nous mobilisions des gens comme lui, mais c'est quand même un peu, il faut les reconnaître, ça va. Mais partout en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Idiopa, un peu partout, on devait sentir les gens sont en guerre. Et les gens se mobilisent, pas seulement pour entrer dans l'armée, mais faire ce qu'on appelle l'article 63 de la Constitution. Je ne vais pas donner ici des propositions que je suis en train de proposer, mais c'est clair. La mobilisation va faire en sorte que l'ennemi puisse fuir de lui-même. Si on a 200 000 jeunes à Kinshasa qui sont mobilisés pour se battre, ça va, comme le Ouaganiens, 100 000 à Lubumbashi, à Kisangani, et tous ses opposants, majorité, candidat, président, s'y mettent. Mais c'est ça que j'appelle mobilisation, madame. pas que les mouvements citoyens, 2, 3, 4 personnes, 20 personnes, se mobilisent seuls et ils sont mis en prison. Une contradiction, encore une fois. On ne sait pas ce que le gouvernement veut. C'est là où je vous parle de la mauvaise place politique qui n'arrive pas à mobiliser le peuple par rapport aux enjeux qui sont graves et gravissimes. Nous sommes parmi les rares pays, madame, où nous sommes attaqués par les Rwandais, c'est reconnu par tout le monde. We have never retaliated. On n'a jamais fait des contre-offensives au Rwanda. Nous avons fait. On ne sait pas, on aura peur de qui jusque là quand. Ça va? Nous ne savons pas faire les choses comme il le faut. Nous faisons les choses moitié-moitié. On a peur de déclarer la guerre, on a plus peur de se prendre. On dit on doit se prendre en charge. Je ne parlerai pas des escarmouches. Tout le monde le sait. Moi, je félicite le chef de l'État. Mais malheureusement, je pense qu'il est très, très mal conseillé. Entouré par la même personne de 1 plus 4, eh ben, qui, effectivement, les conseils que tu as fait. Pratiquement pas grand-chose.
Merci. Merci, Dadi Salé. On va lire quelques réactions des internautes. David Doué dit, depuis Kinshasa, les voisins Lindo n'ont suivi aucune formation militaire. Seuls le FRDC peuvent jouer leur rôle. J'ai laissé la sécurité de la patrie entre les mains des voisins Lindo n'est pas une très bonne chose. Alors, Akilas Di Bendila félicite notre armée qui se bat corps et âme pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Marc Bahati, pour lui, le ministre Zhang était fort lorsqu'il était député. Depuis qu'il est ministre, silence radio, vous êtes très nombreux. Augustin Moulendera, qui nous écrit aussi depuis Goma, il s'adresse au ministre. Monsieur le ministre, vous avez réussi à nous tromper pendant la période des campagnes électorales. Mais sachez que nous sommes au courant de tout ce qui se trame. Je ne sais pas de quoi il veut parler. Kaite Kalunga Prosper, depuis le Lubumbashi, pense que toutes les autorités doivent se réunir, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, pour trouver une solution une fois pour toutes. Et le gouvernement n'est pas tellement clair par rapport à cette situation. Professeur Bob Kiabamba, qu'est-ce que vous pensez de cette situation dans le Nord Kivu qui devient de plus en plus tendue?
Oui, merci pour la question. Je voudrais adresser aussi mes compassions à toute la population du Nord Kivu, mais non seulement du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu, mais aussi des autres provinces, hein, parce qu'on oublie souvent aussi qu'il y a dans beaucoup de provinces où on a les mêmes difficultés au niveau de la sécurisation des biens et des personnes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement, au vu de la situation qu'on est en train de suivre au jour le jour, nous nous rendons bien compte que la situation ne s'améliore pas, que la situation va continuer à se détériorer. Et malheureusement, quand on parle de détérioration de la situation, ça veut dire aussi que la population civile sera toujours la première victime. Parmi les visages, les images qu'on est en train de voir, c'est les visages, c'est les images des enfants, c'est des images des mamans et des vieillards qui sont en train de se déplacer pour aller chercher refuge dans des endroits où ils pensent être en sécurité. Malheureusement, là où ils partent pour être en sécurité, malheureusement, ils ne seront pas non plus en sécurité pour toute une série de raisons. Mais cette situation est assez simple à pouvoir expliquer, à comprendre, pour que les auditeurs comprennent bien. Et donc, on est dans quoi face à ce qui est en train de se passer? C'est qu'il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des forces qui sont en présence. Vous avez les FRDC qui sont là, etc., appuyés, comme le ministre vient de le dire, et qui essaient de se battre dans la mesure du possible. Quand on dit FRDC, il faut toujours bien se rendre compte de quoi on parle. FRDC, c'est pas FRDC armée républicaine, FRDC armée et qui combat des valeurs, etc. Nous avons déjà beaucoup de rapports, vient de la MONUSCO, et aussi d'autres ONG locales, internationales, qui nous disent plus ou moins dans quel état est cette armée. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les Wazalendo. Nous savons tous aussi que c'est les Wazalendo. Contrairement à ce que le ministre vient de dire, nous savons tous que ce sont des gens qui, d'une certaine façon, se sont essayés de se mobiliser avec une idéologie de départ, mais qui, au bout des courses, se transforment en une espèce, comme on dirait, un des chercheurs spécialisés sur ces questions-là, des experts de groupes armés, qui, malheureusement, par rapport à une revendication, essaye toujours de pouvoir sucrer sur le dos de la bête. À côté de ça, vous avez les mercenaires, parce qu'on parle, le ministre a parlé des mercenaires du côté du M23 et compagnie, mais il a oublié les mercenaires qui sont aussi du côté congolais, et qui sont souvent des instructeurs pour lesquels nous savons tous que ce sont des mercenaires et pas nécessairement des instructeurs, et ce qui est condamnable par le droit international. Et on a eu les forces de East African Community qui sont arrivées arrivés avec un mandat complètement flou, non défini, avec des contradictions qu'on a suivies à gauche et à droite, le gouvernement congolais qui dit A et puis les forces est-africaines qui dit B. Maintenant, nous avons la SADC, et puis la SADC qui vient aussi, soi-disant, avec une mission offensive. Cette mission offensive, finalement, qui se transforme en une mission de mandat de maintien de la paix, qui est calquée sur le modèle de la MONUSCO. Et à côté de ça, vous avez la MONUSCO. Alors, devant cette situation que l'on a, on a en face de quoi? Oui, nous avons le M23, le M23 qui est appuyé par le Rwanda confirmé, qui est appuyé par l'Ouganda. J'ai même dit au passage, appuyé par l'Ouganda, et le gouvernement congolais n'a jamais eu le courage de pouvoir le dire clairement, que l'Ouganda est aussi partie prenante, non seulement dans les cadres de ses armées, et aussi dans les cadres d'autres choses. J'ai oublié dans les forces du côté de l'FADC, j'ai oublié de mentionner la question des forces burundaises qui sont officiellement invitées pour pouvoir aider l'FADC à pouvoir mettre fin à la présence de ces groupes armés. Et par rapport à ça, donc on a non seulement la Tanzanie qui est East African Community, dans lesquels on les a chassés parce que tout simplement ils n'étaient pas en mesure de pouvoir sécuriser les populations. Et cette Tanzanie sont dans la SADC, et je vois mal comment, comme ils étaient dans l'East African Community qu'on les a chassés, maintenant qu'ils sont dans la SADC, quel mandat ils vont avoir, et ce mandat est différent. La présidente de la Tanzanie a été claire à ce sujet dans une déclaration avec le président sud-africain, c'est que leur mandat n'est pas le différent que celui des East African Community, c'est le même mandat qu'il y a avec la SADC. Je ne sais pas qui trompe qui maintenant dans ce débat. Est-ce que le gouvernement sait lire ce qu'il signe, ou bien le ministre Zangui ne sait pas très bien ce qu'eux-mêmes ils discutent au niveau du gouvernement pour essayer de dire à la population congolaise ce qu'il en est. Donc la mission de la SADC, apparemment, si j'ai bien lu tout ce que la présidente sud-africaine a dit, c'est le même mandat que East African Community, et c'est le même mandat que la MONUSCO qui est sur le point de départ. Et donc en face de ça, vous avez le M23 maintenant qui est coalisé avec Nanga pour faire ce qu'on appelle l'alliance fleuve Congo, qui sont appuyés non seulement par le Rwanda, mais qui sont aussi appuyés par l'Ouganda. Mais ça, le gouvernement congolais refuse de pouvoir chaque fois mentionner la question ougandaise qui a des accords bilatéraux avec la RDC pour pouvoir traquer les ADF, mais qui était aussi la East African Community. Mais on ne sait pas combien de troupes ont été sur le terrain congolais, combien de troupes ont été rapatriées. Ça non plus, on ne le sait pas.
Mais ce qui est sur le terrain, malheureusement,
ce qui est sur le terrain, madame, excusez-moi, ce qui est sur le terrain, c'est qu'on remarque que les troupes M23 AFC avancent, continuent à gagner du terrain, et au fur et à mesure qu'ils gagnent du terrain, au fur et à mesure, la population continue d'être traquée. Par ailleurs aussi, on dit toujours, oui, ils résistent. Ben oui, bien sûr, ils résistent, mais qu'est-ce qu'on va attendre la prochaine fois? Radio Okapi va nous dire, oui, Mouesso est contrôlé par AFC M23, oui, Chacha, oui, je ne sais pas encore quelle localité qu'on a dit tout à l'heure, toutes ces localités, progressivement. Maintenant, on n'était que dans le Nord Kivu, maintenant nous sommes dans le Sud Kivu, où cette alliance est aussi active dans le Sud Kivu. Alors, face à ça, de vous à moi, il faut être honnête, de se rendre bien compte qu'au niveau de la RDC, on a échoué et que nous sommes incapables de pouvoir sécuriser les populations. Et si on est incapable de pouvoir sécuriser les populations, il faut essayer de trouver d'autres moyens pour sauver cette population qui n'arrête pas d'être meurtrie, qui n'arrête pas d'être tout le temps violentée par ces différents groupes armés.
Et que devient dans tout ça, professeur Bob Kabamba, le processus de Nairobi, Luanda, on n'en parle presque plus, hein?
On ne parle plus du processus de Nairobi pour la bonne et simple raison, le ministre lui-même vient de le confirmer, puisque ces différents groupes armés, aussi bien le M23 que d'autres, étaient dans un processus de démobilisation, cantonnement, etc., réinsertion et tout, qui était en charge par rapport avec le président Uhuru Kenyatta. Au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle maintenant la réactivation de tous ces groupes qui sont devenus des supplétifs, et donc ils ne sont plus dans les processus de Nairobi, comme ils n'ont plus dans les processus de Nairobi, donc le processus de Nairobi, il est mort. Et donc le président Uhuru Kenyatta lui-même a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il ne voit pas ce qu'il va continuer à faire, dans le sens où les groupes armés pour lesquels il est censé pouvoir les démobiliser, les cantonner et les réinsérer, mais ces groupes armés deviennent des supplétifs de l'armée, et le ministre vient de le confirmer, qui sont armés par l'armée congolaise équipés par l'armée congolaise. Et en équipant de l'armée congolaise, ça veut dire tout simplement qu'on n'est plus dans la logique de Nairobi. Alors, quand on parle du processus de Luanda, qui était un processus, on va dire, entre États, dans ces conditions, si le processus de Nairobi n'avance pas, dans ce cas-là, le processus de Luanda non plus est au point mort dans lequel nous constatons. Donc, c'est l'échec complet de ce qu'on pourrait appeler cette diplomatie, de mon point de vue, qui n'a rien apporté, si ce n'est que de la désolation pour les populations du Nord Kivu et maintenant les populations du Sud Kivu.
On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont très très nombreux à appeler et qui veulent aussi intervenir dans cette émission. On va se rendre à Chabunda au Sud Kivu pour écouter cet auditeur.
Maître David Masandi Chabani depuis Chabunda au Sud Kivu. Ce sont les conséquences de la campagne électorale sans bilan, y compris sans projet de société. La solution à cette crise est diplomatique qu'est militaire. La théorie prime à nos dirigeants. Les ISA ne devraient pas ainsi se prononcer du fait qu'ils sont suspectés d'être en connivence avec le Rwanda. L'État pour les pouvoirs réélu de matérialiser ses promesses électorales. Or, ce sont des mensonges. La réalité actuelle est de se mettre autour d'une table pour discuter l'avenir du peuple congolais.
Cet auditeur propose le dialogue comme solution parce qu'il estime que les armes ont montré leurs limites.
Les armes n'ont pas encore monté les limites. Je crois que c'est son point de vue. Tous les Congolais ont le droit d'avoir un point de vue, mais pour ce qui nous concerne, nous ne savons pas on va dialoguer avec qui, on va dialoguer quoi. Puisqu'en fait, en réalité, on a affaire ici à des armées étrangères qui attaquent au niveau du pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi, le président l'a dit à plusieurs reprises, pourquoi nous devons toujours supputer qu'il faut dialoguer, puisque en réalité, on va dialoguer avec qui. On va dialoguer avec Nanga. Nanga a quelle revendication? Je me pose la question, quelle est la revendication de Nanga? Nanga cherche quoi? On va dialoguer avec Bertrand Bisimwa, qui n'est que Panté, qui est utilisé par les Rwandais. Ou alors, dans les cadres diplomatiques, les processus de Nairobi, ça a été de poser la question au Rwanda, quel est votre problème? Ils ne savent pas poser leurs problèmes à ce stade-ci. Je
mais,
crois
mais
que
les mêmes
nous
M23
n'avons pas de prétention, en tout cas, c'est la position... Jusqu'à présent, c'est la position du gouvernement. Nous n'avons pas la prétention de bazarder notre pays par des négociations qui n'aboutiront pratiquement à rien.
Et lorsque ce M23 avait été invité à Kinshasa, c'était pour discuter. Il fallait parler de quoi
moi
avec
je suis député provincial au Nord Kivu depuis 2006. Il y a eu des négociations avec les CNDP. Il y en a qui ont pris des postes ici. Il y en a qui sont devenus même ainsi de suite. Il y a eu des négociations avec les CNDP le 23 mars. On a signé un accord. L'accord qui a permis aux gens comme les Tagana de devenir des commandants régionaux militaires adjoints. On a fait l'intégration accélérée, on a fait le mixage. Ils sont revenus à la charge, ils sont redevenus M23. Après, on a négocié avec les M23, on a eu des accords. Il y en aura toujours, les problèmes vont rester les mêmes. Donc, si, même si on dialoguait aujourd'hui, On n'aura que résolu un problème à moitié, mais le problème reviendra. Je crois que la solution que le président de la République a dit de pouvoir capaciter notre armée pour que nous soyons capables de mettre fin par la force à ces groupes, c'est ça la meilleure solution et c'est la voie qui est suivie par votre gouvernement.
Il y a un auditeur, Marc Bahati, je vais vous donner la parole, monsieur le ministre. Marc Bahati qui dit ceci, moi personnellement je trouve que vous le gouvernement vous n'aidez pas pour que la guerre prenne fin. Dites-nous le contrat de défense que vous avez signé avec l'Ouganda, un pays qui nous aide à Beni et Ituri et ce dernier aide le M23. C'est quel genre de contrat que vous avez avec l'Ouganda?
Je crois que vous poserez la question au ministre de la Défense lorsqu'il viendra parler avec vous ici. Ce que je sais c'est que nous sommes en coopération du côté de Beni avec l'armée ougandaise pour traquer les EDF, et ça se passe bien, faut bien le dire. Les endroits, la grande partie de la chefferie de Rwenzori et de la chefferie de Bachou qui étaient tout le temps attaquée par les EDF aujourd'hui, elle est à voie d'être sécurisée. Il reste effectivement Benimbaou et Mambasa, et puis Rumu, où les EDF continuent à faire des exactions, et les opérations s'étendent de ce niveau-là. Il est vrai que nous avons des rapports qui viennent aider nos services, aider la population, qui a une présence massive des militaires M23 venant de l'Ouganda, sans nous dire clairement si c'est des militaires qui sont engagés par les M23 dans le cadre du mercenariat, ou c'est un engagement direct par l'armée ougandaise. C'est des questions qui méritent bien évidemment d'être élucidées, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore, du côté du ministère de la Défense, j'espère, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore de rapport formel pour dire que l'Ouganda a envoyé formellement des troupes de ce côté-là.
Après Sabunda au Sud Kivu, on va aller à Goma, au Nord Kivu, pour écouter cet autre auditeur.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma, en province du Nord Kivu. La situation sécuritaire qui se passe ici, au Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Rutshuru et Masisi, reste intenable et très alarmante. D'où l'urgence d'une forte mobilisation de nous tous en tant que peuple, car aujourd'hui notre pays est abandonné à son triste sort. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, doit d'ores et déjà s'impliquer personnellement avant que le pire ne nous arrive, car l'ennemi approche Goma. De sa part, l'hiérarchie militaire doit aussi urgemment déployer un arsenal militaire important, un effectif suffisant de soldats à Kibumba, tout au long de la frontière congolo-rwandaise pour barrer la route au circuit de ravitaillement et d'approvisionnement des rebelles du M23 bar RDF de M. Paul Kagame. En ce qui concerne la réaction des États-Unis condamnant l'appui du Rwanda envers la rébellion du M23 au travers un communiqué rendu public aujourd'hui, à mon avis, ce n'est que de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin de la part des grandes puissances qui veulent juste calmer l'opinion. La vérité est telle qu'elles sont le premier bénéficiaire de cette tragédie qui se passe ici au Congo au travers les multinationales. Ces grandes puissances jouent juste au malin. Notre pays est victime d'un complot et d'un abandon international. Voilà pourquoi j'estime qu'il est important de nous prendre en charge. L'urgence s'impose. Merci.
Professeur Dani Salé.
Moïse, que je connais d'ailleurs, dit tout vrai. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Avec notre philosophie Kujitegemea, que nous disons que la société sanguine aussi tout ce qu'elle est là, ben, il est grand temps qu'on comprenne les responsabilités. Et là, nous comprenons que les grandes responsabilités, c'est par rapport à l'homme politique. Je suis en train de répéter. Certes que, comme le gouverneur chinois nous l'a dit, l'armée, c'est un service commandé. Les gens qui prennent des décisions, c'est effectivement le gouvernement. Et le chef suprême, le chef des armées, il est à Kinshasa, il est connu, avec le chef de la défense, le premier ministre et les ministres. Donc, j'estime effectivement qu'on ne prend pas des mesures adéquates par rapport à la situation gravissime qui est là. Tenez un peu comme l'ami vient de le dire, ben, nous le savons tous. Et tout le monde le dit, mais on blague. Je pense que je ne suis pas 100% d'accord avec les ministres, si je les comprends, il est du gouvernement jusqu'à preuve du contraire, qui relativise par rapport aux militaires ougandais. Je précise que l'ANR a déjà précisé. Nous, nous avons déjà précisé. Je ne sais pas si le gouvernement et les ministères de la Défense veulent avoir quelle information, mais nos services de renseignement, c'est l'ANR. Il y a des rapports de l'ANR clairs noirs sur ça. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, par le fait de chercher des fonds fuyants, plutôt que prendre la responsabilité, et c'est ce qui nous manque. Je le répète, nous avons une classe politique tellement médiocre que le chef de l'État l'a si bien dit. Il faudra qu'on évite les erreurs. Mais est-ce que le chef de l'État, avec la même classe politique, à plus de 90%, ne va plus commettre les mêmes erreurs? La même classe politique, c'est le 1 plus 4, ce sont les mêmes leaders en grande partie, nous félicitons les nouveaux leaders comme Zaïdi, etc. Mais tous les anciens leaders, vous voulez qu'ils nous amènent quoi? Ils ont déjà proposé tout ce qu'ils pouvaient proposer pour la sécurité. Mais il faut noter, ils étaient aussi, par exemple, dans le RCD, ça va. Ils étaient aussi parfois dirigés par, par James Kabarebe, qui était chef d'état-major à l'époque. Certains d'entre eux, ou bien beaucoup d'entre eux, étaient dirigés par l'Ouganda, étaient dirigés par le Rwanda, Centrafrique, etc. Alors, quand vous remettez la même personne, entre nous, j'ai parlé de la politique de crise, chef de l'État excellent, vous voulez quel résultat? Ce n'est pas, on ne peut pas avoir des résultats avec cette même classe politique. Ce sont des condamnés à tort notre armée. Certes que nous savons qu'il y a à faire, ça c'est sûr et certain, mais ce qui doit se faire dans l'armée, qui doit remplacer tous les commandants qui viennent des groupes armés plutôt que mettre nos jeunes vaillants nouveaux commandants? On a besoin de nouvelles têtes. J'écris un livre où j'ai dit les expériences dont nous n'avons pas besoin. Les gens qui savent comment est-ce qu'on tue à Beni, comment est-ce qu'on égorge à Lubero, comment est-ce qu'on fait à Rutshuru. Mais pour ces gens-là, on fait quoi tout ce temps parce qu'on continue à égorger? Je le répète, pour janvier seulement, on a plus de 80 personnes. Vers Beni, égorgé, tué, ça continue, ça ne cesse pas, rien n'a cessé. Celui qui pense qu'il y a des résultats positifs de la collaboration avec l'Ouganda vers Ituri, mais je le répète, ce n'est pas possible d'y croire. C'est juste une petite stratégie, ils éliminent, c'est vrai, quelques alliés quand ils veulent, mais ils ont l'opposition et ils nous éliminent au même moment. Donc je pense effectivement que, comme je viens de le dire, le chef de l'État doit corriger des erreurs et il doit placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais cela étant, il nous faut des nouvelles têtes. Je précise, si on met la même personne, je le dis déjà officiellement, ben, je pense que Goma va tomber dans quelques jours, parce que comme notre ami, là c'est bien dit, quelle est la mobilisation populaire qu'il y a? Parce que ça c'est une arme forte, il n'y a pas de vraie mobilisation populaire.
Merci.
Et quelle est la mobilisation citoyenne? Il n'y en a pas.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Beni, au Nord Kivu.
Je suis Doubé Mwenemboka, je vous appelle à partir de Beni, au Nord Kivu. La situation sécuritaire au Nord Kivu semble s'empirer davantage, malgré la volonté du pouvoir de Kinshasa d'y mettre fin, car les décisions palliatives sont plus théoriques que pratiques et l'ennemi prend au sérieux sa conquête. Je crois que pour y mettre fin, le gouvernement doit prendre au sérieux cette guerre en excluant toute négociation avec le Rwanda.
Alors, professeur, les avis sont partagés. Certains Congolais estiment qu'il faut dialoguer, d'autres estiment qu'il ne faudrait pas dialoguer, il faudrait faire la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame, c'est une bonne question. La difficulté, c'est qu'au niveau de la RDC, au niveau du gouvernement congolais, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes liés à la compréhension de l'enjeu. Et la compréhension de cet enjeu montre très bien qu'une fois qu'on a mal compris l'enjeu, ça va de soi qu'on ne parvient plus à avoir une analyse correcte. Et la preuve, c'est que le ministre vient même, de, par exemple, de dire, de confondre les processus. Et il parle du Rwanda au sein du processus de Nairobi. Non, le Rwanda n'est pas concerné par le processus de Nairobi. Le Rwanda est concerné par le processus donc de Luanda. Et c'est la preuve véritablement qu'il est vraiment important de pouvoir arriver à bien cerner le problème et de pouvoir apporter des solutions qui soient des solutions qui sont liées au contexte sur base d'analyse et sur base des processus. Oui, la responsabilité ne revient pas uniquement au gouvernement. La responsabilité vient aussi du président de la République, qui est le garant de l'intégrité, de la souveraineté, de tout ce qui est constitué et qui est inscrit dans la Constitution. Et la position du gouvernement a été de dire clairement, sans ambiguïté, qu'il faut aller à la guerre. Mais pour aller à la guerre, vous devez avoir les moyens de la guerre. Et là, au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte que la RDC n'a pas les moyens de la guerre, parce que depuis le début, on n'arrête pas de reculer, on n'arrête pas de perdre du terrain. Et je le répète encore une fois, c'est la population civile qui continue à souffrir. Alors, quelle solution? Je pense, d'un point de vue, il y a d'abord, dans un premier temps, le fait d'accepter que la RDC n'a pas les moyens de pouvoir arriver à résoudre cette question de manière militaire et qu'elle doit arriver elle-même à pouvoir d'abord s'approprier ses moyens, devenir une armée, construire une armée qui va protéger les Congolais, protéger les biens et aussi protéger les frontières. Par ailleurs, de l'autre côté aussi, on se rend bien compte que tant qu'on n'est pas en mesure de pouvoir arriver à résoudre la question sécuritaire, et donc il va de soi que il faut qu'on arrive à stopper cette offensive armée. Cette offensive armée de la part de AFC Nanga, contrairement à ce que le ministre dit, je remarque simplement que Nanga continue à avancer sur le terrain. Et que quand il continue à avancer sur le terrain, qu'on le traite de pantin, oui, mais c'est lui qui est le représentant de ce mouvement armé politico-militaire. Je ne vois pas comment on ne peut pas tenir compte de ce qu'il dit, même s'il est appuyé par l'extérieur. Oui, il est un acteur politique congolais. Oui, il compte. Et on doit en prendre compte en considération. Il gère une partie de la RDC. Et on a déjà eu les mêmes cas en 2006. En 1996, en 1998, en 2002, en 2004, en 2006. Tous ces processus, on les a déjà eus. Nous savons bien très qu'il y a, parce que tout simplement, la RDC n'est pas encore en mesure de pouvoir arriver à remplir les obligations régaliennes qui sont les siennes. Protéger les Congolais, leurs biens et la population. Si on n'y arrive pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et dire oui, nous n'y arrivons pas. On doit chercher d'autres solutions. Et ça, merci. À Kinshasa, malheureusement, on ne veut pas l'entendre, et le gouvernement ne veut pas l'entendre, et on continue à avoir des slogans avec des VTP, des Wazalendo, et qui ne sont pas des militaires, et qui on pense qu'ils vont réussir à protéger, qui ne vont pas protéger, et malheureusement, et qui ont continué à perdre du terrain, et on en est encore là, et on nous parle maintenant bientôt que Goma, Bukavu, je ne sais pas encore quelle autre ville, pourrait être pris par ces forces. Une fois que ces forces vont prendre ça, je ne sais pas dans quelle dynamique nous allons pouvoir être.
Merci, professeur Bobo Kebambo. On va considérer cela comme votre conclusion parce que il est déjà 20h à l'entre-horloge. C'est l'heure à laquelle prend fin cette émission. Mais je vais vous donner la parole, monsieur le ministre, pour conclure. Il y a le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui insiste aussi sur la nécessité du dialogue et de la coopération régionale pour ouvrir la voie à la réconciliation avec les groupes armés.
Là, il y a d'abord, il faut dire ce qu'ils ont dit, les Américains. On demandait au Rwanda de retirer les troupes.
Oui,
je voudrais demander aux Américains de les dire aux Nations Unies, puisqu'ils sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsqu'un pays a des troupes dans un autre pays, ça s'appelle l'agression. Il faut que les États-Unis les disent clairement que les Rwandais agressent la RDC de la même manière qu'ils sont en train de se poumonner contre la Russie qui agresse l'Ukraine. Ils doivent le dire aussi contre les Rwandais qui agressent la RDC. Je voudrais aussi passer un petit message au professeur Bob, qui est pertinent dans cette analyse. Je voudrais vraiment lui dire que si on a négocié 5 fois ou 15 fois, c'est parce qu'effectivement on n'a pas bien résolu les problèmes. C'est pas puisqu'on a perdu la bataille à Chacha que nous allons nous remettre ou remettre tout notre pays entre les mains du Rwanda. Moi je crois que nous perdons des batailles, c'est vrai, mais je suis très sûr avec la détermination que nous avons, que le peuple congolais a aujourd'hui, la mobilisation que nous avons et la montée en puissance de nos forces, que nous sommes capables de défendre notre pays et on va y arriver.
On a les moyens pour ça.
Moi je ne perds pas espoir, on va y arriver. Il est question que nous puissions recadrer, que nous puissions avoir d'autres réglages au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. On y travaille et on va y arriver. Si on dit que nous sommes vraiment dans le pétrin aujourd'hui, c'est méconsidérer les efforts et tous les sacrifices que les jeunes et l'armée congolaise sont en train de faire sur le terrain. Nous qui suivons l'histoire sur le terrain, on ne peut pas tout dire ici, on sait que ce qui se passe, c'est un combat de très haute intensité et que nos hommes, malgré les quelques pertes qu'ils ont, ils se comportent encore très bien. Et je suis sûr qu'on peut encore relever la tête. J'ai circulé à tous les pays, dans toute la province du Nord Kivu. Le message du peuple est clair. Renforçons notre armée, pas question de dialogue et aussi tiens.
Dadi Salé, votre conclusion.
Oui, je ne peux pas passer les paroles du professeur Kabamba qui a raison de dire beaucoup de choses, mais il a totalement tort, il ne comprend absolument pas ce qui est de Wazalendo. Je ne peux pas me permettre ça. Ce sont les fils congolais qui font la dignité du peuple congolais, pas des gens qui portent des cravates par-ci par-là, pas même nous les professeurs. Ils valent mieux que nous tous, je peux vous les garantir. Donc là, je ne peux pas faire passer, ils ne comprennent pas le rôle de Wazalendo. Ils jouent un grand rôle et ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des groupes armés, je pense qu'ils ne comprennent même pas. Là, je ne peux pas faire passer. Alors, en conclusion, j'estime personnellement qu'il y a des solutions à court terme. Et vous savez que quand on parle de moyens, le premier moyen, c'est des moyens humains, je viens de le répéter. Il nous faut une mobilisation générale à court terme. C'est-à-dire, effectivement, qu'il ne faut pas penser que ce sont seulement des armes sophistiquées. Là, nous sommes d'accord, mais la mobilisation mobilisation du peuple congolais, où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de ministre. Tout le monde est là quand la maison brûle, on doit éteindre le feu.
Alors, deuxièmement, il faut y aller rapidement. Deuxièmement.
Oui. Oui, très rapidement maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on a une guerre immédiate, c'est-à-dire article 63 et article 86, mais nous avons aussi le moyen terme. Le moyen terme, effectivement, on doit continuer à monter en puissance et avoir même des armes à destruction massive. Et quatrièmement, avoir par exemple 1 million de militaires au Congo, parce qu'on ne doit pas se faire piétiner par des pays et des gens comme ça pendant 30 ans. Et troisièmement, rapidement, à long terme, il nous faut une dissuasion nucléaire. Je l'ai dit, je le répète, peuple congolais ne peut plus avoir confiance à des étrangers. On sait qu'il y a un complot international, mais comment nous nous préparons? Et nous sommes, s'il vous plaît, on doit prendre des grandes décisions et pas considérer des postes ministres et députés. Ça sert à quoi si le peuple continue de mourir? Il nous faut des leaders qui comprennent qu'ils doivent se sacrifier, comme le chef de l'État l'a dit, pour son peuple. Mourons tous s'il le faut, mais nous devons nous battre. Et je précise que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force. Donc la vraie diplomatie, c'est quand nous reprenons les défis, alors on peut s'asseoir pour dire par exemple quoi? Rwandais, nous vous donnons des couloirs, sortez, sinon nous vous tuons tous. Ça va? Et vous allez payer par exemple 50 milliards de dommages et intérêts avec les autres. Voilà la négociation qu'on peut parler, pas la négociation dont les gens sont en train de parler maintenant. Il nous faut un rapport de force et immédiatement, et c'est possible, Excellence, Monsieur le Président. Nous
sommes merci. À votre merci, Dadi Salé, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Mimi Kindou, Guy Maté, Clément Chimanga, Donaton Fouanani, Hervé Voka. Présentation et coordination, qu'elle écoutait bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.